Bonjour, nous sommes du syndicat solidaire étudiant Rennes. Nous vous retrouvons donc aujourd'hui dans ce podcast pour discuter du sexisme propre à l'institution universitaire et des diverses formes qu'il prend, que ce soit les stéréotypes de genre dans les filières, les discriminations à l'embauche, dans les formations. Pour aider à la réflexion, nous sommes également allés recueillir les avis et points de vue des étudiants et étudiantes sur le sujet. Et nous avons également à nos côtés, pour réagir à ces idées et réfléchir avec nous, Lucille, syndiquée au syndicat solidaire étudiant de Lyon, qui milite notamment sur ces questions-là, au sujet du sexisme et de l'enseignement et de la recherche. Salut Lucille.
Salut.
Tout d'abord, nous avons posté donc une question assez générale aux étudiants et aux étudiantes.
Est-ce que tu penses qu'on peut retrouver des discriminations liées au genre au sein de l'université, et si oui, lesquelles ?
Bah, à mon avis, oui, je dirais que ça peut se retrouver à différents niveaux, que ce soit en fait dans la relation étudiant vis-à-vis de ton prof ou vis-à-vis de personnel administratif. Pour le coup, entre étudiants, ouais, je sais pas par exemple si... dans les prises de parole en classe.
Bah, je pense que oui, déjà. Après lesquelles, au niveau des postes, je pense qu'il y a des différences dans les quotas, dans les proportions.
Peut-être au sein même des associations étudiantes aussi, ou des BDE possiblement. Après peut-être dans la manière de représenter aussi l'espace public de l'université, parce que j'ai vu qu'il y avait des études là-dessus sur la façon dont est fait l'espace public et comment ça peut être fait pour un genre, donc plutôt patriarcal ou des trucs comme ça, mais je ne suis pas trop intéressé, j'ai pas lu tous les articles, mais je sais que ça existe. Donc peut-être la façon dont aménager l'université, ça peut jouer aussi sur ça.
On a vu qu'on a obtenu des réponses assez différentes. Pour rappeler, parce que généralement c'était pas forcément bien compris, que pour mémoire, le droit définit une discrimination ainsi. Il s'agit d'un traitement défavorable qui doit généralement remplir deux conditions cumulatives, donc être fondé sur un critère défini par la loi, donc en l'occurrence le sexe, et relever d'une situation visée par la loi, donc un accès à un emploi, un service, un logement. Quel est ton avis sur la question des discriminations qu'on peut retrouver à l'université au niveau du genre ?
L'université, n'étant pas en dehors du reste du monde, il n'y a pas de raison qu'elle soit épargnée par le sexisme. Je dirais qu'évidemment, il y a du sexisme à l'université. Bah là, la question, c'est plus spécifiquement sur les discriminations qui sont juste une partie du sexisme, parce qu'il y a plein d'autres aspects, que ce soit les agressions sexuelles dont on a pas mal parlé ces derniers temps, ou juste des ambiances sexistes dans des promos. Là, dans les enregistrements, quand il y avait quelqu'un qui parlait de la prise de parole, ça m'a fait penser à une fois en TD, il y a genre 2 ans, un truc comme ça, quand il y avait des mecs qui n'arrêtaient pas de débattre en prenant la parole sauvagement, et du coup, ça ne laissait pas la place d'en placer une quand on attendait gentiment d'avoir un tour de parole. Et où du coup, j'ai fini par en avoir marre, et puis j'ai dit qu'il fallait que les mecs arrêtent de monopoliser la parole, un truc comme ça. Puis il y a un mec qui s'est énervé en mode « Je ne suis pas ici pour me faire insulter, c'est quoi ce sexisme contre les hommes et tout ?»
À ton avis, quelle est la proportion de femmes qui sont directrices d'université ?
Beaucoup, je dirais 30%, même pas.
Je vais dire 5%.
15%.
Ouais, 15%. Ouais.
Je sais pas, un peu moins de 50%, on va dire.
Et combien d'enseignantes chercheuses ?
Je dirais 30, ouais, 40%.
Ouais, 35%.
30-40%.
Cette question, évidemment, elle était plus complexe, il ne s'agit pas de répondre précisément, mais cela donne néanmoins des proportions que les étudiants et les étudiantes pensent retrouver. Et de ton côté, est-ce que tu as une idée plus ou moins précise sur ces chiffres, que ce soit donc la proportion des enseignantes chercheuses ou des directrices d'université, par exemple ?
Pour les présidentes d'université, il y a environ 15% de femmes seulement. Au niveau des maîtres et maîtresses de conférences, les femmes, elles sont à 45% seulement. Et après, au niveau des professeurs d'université, elles sont à 26%. Donc, on voit déjà qu'elles sont sous-représentées dans les postes de titulaires, mais plus c'est des postes élevés, moins il y a de chances qu'il y ait de meufs.
Oui, c'est ça. Et ce que tu dis, c'est un plafond de verre, hein, qui fait que les femmes n'accèdent pas aux postes les plus importants. On peut penser notamment à la catégorie de ce qu'on appelle donc les biats, qui sont majoritairement des femmes, sont généralement pas titulaires.
Les personnels administratifs de base sont majoritairement des femmes, mais dès qu'il s'agit d'un poste administratif à responsabilité, genre direction des services juridiques, là, le nombre de mecs augmente étrangement. D'ailleurs, j'ai pas trouvé de chiffres pour les vacataires, du style des doctorants chargés de TD. J'ai les chiffres doctorants et doctorantes, où il y a environ 55% de femmes parmi les personnes qui obtiennent un doctorat. Et ensuite, parmi les personnes qui obtiennent un poste de maître ou maîtresse de conférence, on passe déjà à 45. Donc, on voit qu'il y a déjà une sélection genrée là où les mecs qui ont un doctorat ont plus de chances d'avoir un poste de titulaire que les femmes.
Plus les postes sont importants au sein des, du coup, de la hiérarchie universitaire, et moins il y a de femmes. Selon toi, comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ?
C'est par rapport à la société, c'est que l'homme, il est supérieur à la femme, quoi.
Il est considéré, mais il l'est pas.
Ouais, voilà, donc, du coup, forcément, même si la femme, elle a plus de qualité que l'homme, bah, on va prendre l'homme, quoi.
Ouais. Genre, ça a toujours été comme ça.
Ouais, c'est la société, en fait, qui fait ça. Hein.
Je pense parce que les hommes, ils ont moins confiance. Ils ont peur, peut-être, de donner des responsabilités aux femmes. Je pense, et du coup, ils ont moins confiance.
Déjà, je pense que peut-être ceux qui décident qui occupe ce poste sont principalement des hommes. Je pense. S'il y a un entretien, par exemple, je pense que c'est plutôt des hommes qui passent dedans.
Je sais pas si ça prête un élément de réponse, mais il y avait une étude qui avait été faite comme quoi. Enfin, ils avaient demandé à deux personnes qui postulaient pour le même poste le salaire qu'ils espéraient avoir en étant promu à ce poste. Et les femmes, généralement, demandaient beaucoup moins parce qu'il semblerait qu'elles osent moins. Je sais pas si on fait une généralité de ça. Mais je pense que c'est pareil pour demander d'escalader les échelons. Je trouve que ça se fait beaucoup par le charisme. Et ça, les hommes ont quand même plus les épaules. Enfin, c'est hyper général ce que je dis, mais en tout cas, dans l'imaginaire, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est peut-être un élément de réponse qui pourrait être apporté.
Puis il faut pas oublier qu'il y a quand même... une sorte de violence de la part des hommes qui fait que la femme elle peut pas accéder à elle peut pas accéder à tous les échelons et je sais qu'il y avait une professeure au collège qui nous parlait de ça et qui nous disait que une de ses anciennes élèves qui là voulait devenir pilote dans l'armée de l'air, elle était la seule dans sa formation et femme, il y avait que des hommes sinon, elle avait été complètement harcelée et du coup à la fin elle pouvait plus, elle avait arrêté donc il y a quand même une emprise de l'homme qui fait que la femme, elle peut pas non plus aller n'importe où, en plus de cette pression qui fait qu'elle doit rester humble.
Est-ce qu'on peut pas être cause de congé maternité aussi ? La femme, si elle veut des enfants, vu que c'est elle qui les portera et pas le mari, elle est obligée de passer par un congé maternité alors que l'homme pas forcément, et je pense que ça bloque aussi à l'embauche.
Une nouvelle fois, dans ses opinions, on a beaucoup d'idées différentes, que ce soit l'importance de la vie familiale, l'influence de la société, qui revient beaucoup, les stéréotypes, mais aussi parfois des discriminations liées à l'institution en elle-même, et aussi une potentielle violence vécue par les femmes. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que des choses t'ont marqué en particulier ?
Pour le coup, je trouve que de manière générale, c'était plutôt pertinent et que les raisons sont multiples. Et je pense que plein de bonnes raisons ont été évoquées. Genre, pour le truc sur la vie familiale, on sait très bien que quand il y a des enfants qui arrivent dans un couple, ça va avoir des conséquences sur la carrière de la meuf, mais pas sur la carrière du mec. Ça va principalement être elle qui va mettre sa carrière en pause ou au ralenti pour s'occuper de l'enfant, tandis que l'homme va continuer sa carrière tranquille. D'ailleurs, au niveau de la vie conjugale, vu que les enseignants-chercheurs sont souvent en couple avec d'autres enseignants-chercheurs, vu que c'est de la fonction publique, il existe des mécanismes de regroupement conjugal où tu peux demander plus facilement à être muté dans la ville de ton conjoint ou ta conjointe. Et que du coup, c'était très majoritairement les femmes qui avaient recours pour rejoindre leur conjoint. Où les hommes, ils acceptaient plus des postes en fonction de ce qui va être bien pour leur carrière. Et la femme du couple va prendre un poste un peu random qui fait pas particulièrement avancer sa carrière pour rejoindre son mari. Et très rarement l'inverse. D'ailleurs, je me souviens, dans mon UFR, il y avait un nouveau prof qui était là pour une procédure de regroupement conjugal. C'était un petit peu un sujet de rigolade parce que c'était la première fois que, apparemment, les profs de l'UFR voyaient un mec qui arrivait suite à une procédure comme ça. C'était un sujet de blague, alors que quand c'est les femmes, c'est normal. Enfin, je dis ça, je suis dans un UFR de sciences sociales. Après, ouais, sur un truc que j'avais trouvé bien aussi, c'était l'évocation que les femmes, elles osent moins, comme le fait qu'elles demandent moins de salaire. Parce que justement, j'avais vu des chiffres où on voyait que, effectivement, les femmes postulaient moins pour les postes de manière générale, quel que soit le niveau. Par exemple, on avait vu qu'il y avait environ 55% des doctorants qui sont des femmes, mais là-dedans, il va quand même avoir plus d'hommes qui postulent pour des postes de titulaires que de femmes. Donc, on voit qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes à oser se sentir légitimes. Enfin, les postes, ça marche aussi pas mal à la cooptation et au réseau et à connaître les bonnes personnes. Bah voilà, quand c'est principalement des hommes aux manettes, il y a la solidarité masculine qui joue, même quand c'est pas voulu. Ils ont tendance à recommander des gens qui leur ressemblent, entre guillemets, donc ça fait une certaine reproduction sociale. Et avec tout un tas de stéréotypes sur qu'est-ce qui est un bon chercheur, quelqu'un de compétent et tout, c'est plus souvent des stéréotypes qui collent, on va dire, à la socialisation masculine plutôt qu'à la socialisation féminine. Les hommes ont tendance à être naturellement perçus comme plus compétents qu'une femme alors qu'ils auraient fait exactement la même chose. C'était en discutant avec une prof où elle avait parlé qu'il y avait pour les jurys un minimum de femmes et que c'était plus autorisé d'avoir des jurys uniquement masculins. Et que du coup, au début, la prof, elle disait qu'elle était plutôt contre parce qu'elle elle voulait pas être choisie juste pour être une femme et pas pour ses compétences. Mais après, elle a fini par être pour parce qu'elle a vu que sans ça, les trucs qui se féminisaient jamais naturellement et que les femmes compétentes, elles sont là, mais juste elles sont jamais choisies si on force pas un petit peu les choses et qu'on n'oblige pas qu'il y ait plus de femmes.
Selon vous, est-ce qu'il y a encore des différences de choix de domaine d'études selon le genre, avec des filières stéréotypées féminines et d'autres masculines? Et en remarquez-vous dans votre filière?
Bah, rien qu'au lycée, on a fait ST2S, il y avait que des filles, il y avait quoi, 3 gars.
Ouais.
Du coup, je pense qu'il y a des... Après, ça veut pas dire que les hommes, ils ont pas le droit d'y aller, mais je pense qu'il y a des filières qui sont un peu plus masculines que d'autres.
Qui sont considérées.
Ouais. Mais après, les femmes peuvent comme
bien aller. Pareil à l'université.
Ouais, pareil.
Justement, ça c'est une bonne question, parce qu'en prépa, en tout cas au lycée Chateaubriand, il y a 3 sections, littéraire, économique et scientifique. Et même si les économiques... les économiques, on est la classe qui est la plus équilibrée, niveau ratio filles-garçons. En scientifique, il y a quand même une très grande majorité de mecs. Ouais. En littéraire, une très grande majorité de filles.
Oh, non, ça, je pense pas tant que ça. Je pense, non, peut-être... En biologie et tout ça, mais non, je pense pas.
Ouais, je pense, par exemple, la menuiserie, la chaudonnerie, tout ça. Mais commence à avoir maintenant des filles qui commencent à rentrer dedans. Mais je pense qu'il y aura toujours c'est un métier de gars, quoi. Comme le foot, on dit c'est quelque chose de gars, quoi.
Moi je pense que oui encore, même si ça se tend à se normaliser, enfin...
Ouais. Et est-ce que dans ta filière, donc, tu remarques un peu une surreprésentation d'hommes ou de femmes, enfin, est-ce que c'est marqué?
Moi j'étais étonnamment surprise en voyant arriver la promotion 2020-2021. Parce que vraiment, il y a plus de garçons que de filles dans la filière économique, et ça, c'est la première fois.
Non, on est mixte à peu près dans la classe. Ouais.
Non, je trouve pas. En tout cas, dans ma classe, je trouve qu'il y a il y a un bon équilibre entre filles et garçons, donc c'est assez important. Mais j'ai pas été comment. En plus, j'ai dû changer de groupe deux fois, donc j'ai pu constater que non, il n'y avait pas tant de différence que ça en termes de résultats filles.
Honnêtement, non, j'ai pas vraiment l'impression. À part à la limite, nous on a pas directement en cours, mais dans un atelier de philosophie politique, il y a quand même plus d'hommes que de femmes, et à quelques exceptions près, ouais, c'est quand même plus souvent les hommes qui prennent la parole, mais du coup plus sur un plan politique qu'autre chose.
Notre filière ?
Dans notre filière, je vois, je pense qu'il y a pas mal de...
Peut-être un poil plus de
peut-être
femmes.
Un poil plus. Je sais pas, j'aurais peut-être dit un poil plus d'hommes, moi, mais...
Ouais,
j'ai
non,
pas
ouais,
trop
en
fait,
non,
ouais. Mais
peut-être,
je pense
ouais,
que c'est assez demain. Partagé ouais. Dans notre filière.
Ça va encore.
Du coup, on est en géographie.
Qu'en penses-tu ?
Les filières sont encore très genrées pour la majorité d'entre elles. Et puis, il y a cette idée que ça s'améliore, mais dans les chiffres, ça s'améliore pas tant que ça. Le ministère qui fait des études tous les ans sur la répartition genrée, on part ce que c'était 10 ans avant, et on voit très peu d'évolution. Enfin, il y a généralement des petites évolutions, mais vraiment, ça se compte en quelques pourcentages. Donc même si dans les esprits, c'est plus admis qu'il n'y a pas de métier d'homme et de métier de femme, dans les pratiques, ça se réalise moins. En plus, les filières qui ont l'air plus mixtes, ça peut être trompeur aussi. Parce que par exemple, dans les chiffres que j'avais du ministère, quand on regardait en sciences, il y avait à peu près la parité entre hommes et femmes, si on prenait la catégorie juste sciences. Enfin, il y avait en gros 47% de femmes, donc presque la moitié. Mais après, si on regardait la répartition entre les différents domaines de sciences, les femmes, elles étaient principalement dans des choses qu'on appelle sciences de la vie ou de la terre. Et tout ce qui était physique, maths, informatique, ingénieur, c'était très majoritairement masculin. Et il n'y a même pas un tiers de femmes dans ces filières-là. Donc même quand ça a l'air paritaire, quand on zoome un petit peu, il y a quand même des différences qui se retrouvent.
Est-ce que tu penses que les travaux de recherche des femmes sont autant reconnus que ceux des hommes ?
Non, je pense pas. Je pense qu'on donnera plus un prix à un homme, des prix Nobel par exemple, qu'une femme. On n'a pas beaucoup entendu parler.
Ça non, je pense pas encore. Mais je pense que on arrive quand même dans un bon processus, mais je pense pas encore que ça a la même valeur, en fait. Un résultat n'a pas autant de valeur si c'est un homme qu'une femme, mais je suis pas sûr du tout. Hein.
Je sais pas, là, je me mets une question piège, parce que, au final, un peu, est-ce qu'on pourrait dire valeur égale ? Enfin, déjà que valeur égale, c'est difficile à poser. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que surtout le problème, c'est peut-être pas tant la reconnaissance qu'on accorde aux travaux qui sont faits, que plutôt le fait autoréalisateur que les femmes se déconsidèrent comme capables de faire des trucs.
J'avais fait un exposé sur ça, sur la place de la femme dans l'écologie, du coup. Et je vais dire non, pour le coup, parce qu'elles étaient moins, je vais dire, prises au sérieux, parce que c'était des femmes.
Bah, je pense pas, ouais. Comme on a dit, les hommes sont supérieurs à la femme, du coup, bah, même si la femme, elle a plus de qualité, qu'elle fait du meilleur travail, je suis sûre qu'il y a un CV d'une femme super bien et un homme pas trop ouf, mais on va prendre l'homme, quoi. Bah, après, c'est pas comme ça partout.
C'est une générale.
Ouais, mais ça commence à se... On va dire que maintenant, il y en a un petit peu moins, quand même.
Là, par exemple, en philo, on a un travail, on a un thème général sur l'année qui est sur l'animal. Du coup, on va étudier plein de textes, plein d'études. Et c'est vrai que même si notre professeur elle essaie vraiment de faire des recherches et de prendre de tous les genres, il y a quand même une majorité de textes qui viennent du côté masculin. Hein. Parce que c'est quand même des textes qui sont vachement classiques. Du coup, tout de suite, ça va être des philosophes et des philosophes de...
Oui, c'est vrai que les philosophes, déjà, c'est tous des hommes. Voilà, enfin, ce qu'on étudie, après, ça date de l'Antiquité.
À part Hannah Arendt, on n'en connaît pas d'autres, des femmes. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais il y a quand même cet effort qui fait que, genre, parmi les scientifiques, les ethnologues, par exemple, contemporains, on a beaucoup d'exemples femmes. Mais c'est vrai que tout ce qui est exemple classique, c'est principalement masculin.
Oui, ça va être dans les contemporains qu'on va trouver des femmes. Et d'ailleurs, il faut aller chercher. Je sais que notre professeure, elle essaye de diversifier ça. Ouais. Donc elle va vraiment chercher la femme qui a fait le travail sur ce thème-là.
Qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense qu'on a un consensus pour dire que les travaux des femmes sont moins reconnus que ceux des hommes. Il y a ce qu'ils appelaient les grands classiques, les auteurs phares incontournables des disciplines. J'ai envie de dire qu'on peut prendre plus en compte l'apport des femmes qui ont été oubliées et aussi le rôle que les femmes ont joué dans l'élaboration de la pensée de ces auteurs masculins. J'avais lu que les articles scientifiques écrits par des femmes étaient en moyenne moins cités que ceux écrits par des hommes. Donc un biais de sélection qui fait que quand c'est des trucs écrits par des mecs, ça a un présupposé plus positif.
Oui, et souvent il y a aussi le fait qu'une femme sera beaucoup plus soumise à la critique.
Il y a plus d'indulgence envers les hommes, notamment quand c'est des hommes qui ont atteint un certain statut, qui font référence dans leur domaine par leurs travaux. Il arrive un moment où ils peuvent un peu écrire ce qu'ils veulent, se laisser aller, et on aura beaucoup moins de rigueur parce que c'est des grands noms.
Merci Lucille pour ta présence et tes témoignages et les connaissances que tu as pu nous apporter. Nous arrivons maintenant au terme de ce podcast.